France Inter. À travers une fente dans le mur, la moitié du visage enfoncé dans l'oreiller, je regarde le mouvement de la lumière matinale qui filtre entre les branches des arbres. Un moustique détourne mon attention, interrompant une hypnose qui dure depuis déjà de longues minutes. Je ne lui laisse aucune chance de survie. Clac ! Contre la paume de ma main. Dans le même élan, je me retourne, passe une jambe par-dessus le garde-corps, la seconde et me voilà sur l'échelle, à l'envers, face au reste de la pièce, inconfortable mais soulagée de ne plus entendre mon lit grincer. Je n'ai pas voulu allumer en entrant hier. C'est plutôt grand, 35 mètres carrés à vue de nez, 5 lits superposés, 10 couchages, 3 occupés par des gens que je ne reconnais pas de dos. Tout est en bois, le sol, les murs, le plafond, les lits, le banc de l'entrée. J'ai dormi dans une cabane dans la forêt.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Léa Hirschfeld.
Bonsoir.
On est où là avec ce feu qui crépite?
On est à Zeno.
Zeno c'est où? C'est quoi?
Zeno c'est Zeno Mountain Farm pour le nom complet. C'est dans le Vermont aux États-Unis, à une heure au sud de Burlington. On est au milieu des arbres, en haut d'une montagne, pas loin de la vallée du lac Champlain.
Et dans votre histoire?
Et dans mon histoire, on est dans un lieu qui rassemble des personnes avec et sans handicap autour de projets artistiques. Un lieu que je découvre à 19 ans pour la première fois. Et donc au moment de cette musique, j'ai 19 ans. Et je suis en quête de réconciliation avec ma famille, avec mon histoire qui implique un frère porteur de handicap avec laquelle je ne sais pas encore bâtir une relation.
Zeno, c'est le titre de votre tout premier récit, coédité avec la Villa Albertine, résidence d'artistes qui vous a accueilli aux États-Unis. C'est là qu'est né votre podcast Décalé. Il est joli, ce mot décalé. Moi, je l'aime beaucoup. Comment vous est-il venu?
Je cherchais un synonyme de différent, je cherchais un synonyme de handicap, je cherchais un terme qui rassemble tout le monde. On s'est tous déjà senti décalé. On est tous décalés à notre façon, et donc je cherchais une émotion à laquelle on puisse tous s'identifier pour bâtir une certaine empathie peut-être, et qu'on puisse se mettre à la place d'une personne porteuse de handicap au quotidien, un sentiment de décalage au quotidien.
La première fois que le mot handicapé est prononcé dans votre famille, c'est par vous,
oui.
Et vous étiez toute petite, ça dit quoi de votre place?
Celle qui parle. Celle peut-être qui dit les mots un petit peu plus franchement. Je pense que mes parents, ils les emploient les mots, mais c'est vrai que moi je pense que j'ai été peut-être celle qui était plus crue, plus frontale, qui ait osé les confrontations, qui ait osé les mots plus durs à la maison.
Vous êtes une grande petite sœur, et vous nous expliquerez en quoi vous interrogez au fond le fonctionnement d'une famille, les places de chacun, celles qui nous reviennent, celles dont on hérite, celles dont on s'arrache. Alors, c'est drôle, mais Anton, on en avait entendu parler par ici, c'était il y a 2 ans, Mariana Loupan, documentariste, lui avait consacré un film magnifique, Le Voyage d'Anton, Anton, son fils, Mariana, votre mère, donc, et c'est fou, parce que vous me donnez donc l'occasion, sans le vouloir, chère Léa, de voir à quel point tout est toujours une question de point de vue, de comment on se raconte l'histoire, qui la raconte. Qui voyez-vous dans ce miroir? Ouais. On va commencer par votre point de vue sur vous-même, Léa Hirschfeld.
Je vois quelqu'un qui s'est apaisé. Je vois quelqu'un qui a pris un peu de joue parce que je suis très enceinte.
Spoiler, c'est pour dans un mois.
Voilà. Je vois jeune fille qui a longtemps été en recherche, et j'ai l'impression que peut-être cette dernière année ou ces 2-3 dernières années, j'ai trouvé beaucoup de choses, et je trouve que mon visage a trouvé un apaisement et peut-être un petit peu de gravité.
France Inter, En marge.
qu'elle nous emmène, Shadé, dans vos souvenirs ?
Elle nous emmène dans une vidéo d'archives familiales. On est dans une chambre d'hôtel avec mes parents et mon frère. Ma mère filme. Je suis dans les bras de mon père en train de on danse. Et mon frère m'agrippe et me fait descendre et prend la place que j'avais dans les bras de mon père. Et c'est marrant parce que c'est une très belle vidéo, c'est des beaux souvenirs, mais c'est un peu la fin de l'insouciance pour moi, cette époque-là.
Parce que j'ai
5-6 ans, je me rends compte que mon frère a les difficultés qu'il a. C'est à cette époque-là que je prononce pour la première fois le mot handicapé à la maison. C'est une prise de conscience de ma place, de à la fois... un peu accompagnatrice de mon frère. C'est la prise de conscience de sa différence dans le monde, du rejet plus fort et de ce que ça me fait. Et ça me fait mal. Et donc, c'est le début de la partition fine entre être la sœur alliée d'Anton quand j'y arrive et celle qui essaye de trouver sa place dans le monde et qui ne peut pas l'emmener avec elle.
Vous êtes en Israël à ce moment-là. Qu'est-ce que vous y faites ?
On est parti à Jérusalem pendant un an et demi, presque deux ans, pour qu'Anton soit pris en charge dans un centre qui s'appelle le centre Feuerstein, qui est un centre de remédiation cognitive, grosso modo. Et c'est le premier endroit qui a donné sa chance à mon frère, en fait. Mmh. Il a été déscolarisé à 5 ans.
Déscolarisé parce que l'école n'en voulait pas.
Mmh. Parce qu'il avait droit à une... À l'époque, c'était des AVS, aujourd'hui, c'est des AESH, il y avait droit, on ne lui donnait pas cet accompagnement. On suggérait l'institution à mes parents en boucle.
Anton a des traits autistiques, ouais. On va dire, mais c'est pas non plus exactement toutes ces cases-là qui sont cochées, ça reste assez flou.
C'est des troubles neurocognitifs, donc ça va se manifester au quotidien par un trouble du langage, par exemple, par des difficultés de motricité, par une difficulté à comprendre le monde, à l'analyser, à le comprendre, à l'intégrer. Une conversation, par exemple, qu'il n'a pas.
Mais n'empêche qu'en Israël, il fait des progrès spectaculaires.
Ouais.
Parce que là, les gens croient en lui, croient que c'est possible.
Mais en fait, en Israël, en tout cas, le professeur Feuerstein, quand il rencontre mes parents, parle d'avenir pour mon frère. C'était la première fois qu'on parlait d'une notion d'avenir pour un enfant de 6 ans, enfin, à l'époque. Tout le monde lui diagnostiquait une fin, tu vois.
Pas d'avenir.
Et jamais de possible. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher là-bas. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé, ouais.
Ce que vous avez commencé à trouver, et puis les attentats reprennent, alors il faut rentrer. Ouais. Comment est-ce que vous vivez, vous, le retour en France à 6 ans, 2 ans plus tard ?
Moi, j'étais bien là-bas. Ouais. J'avais mes nouvelles, j'avais des nouveaux amis. J'aimais bien que l'école se finisse à 13h. Il faisait beau, enfin, il y avait quelque chose de... Moi, j'étais enfant, donc je voyais bien qu'on était là pour mon frère, mais j'aimais bien la vie... là-bas, mais c'est surtout le retour marque une confrontation avec d'autres réalités d'enfants qui n'avaient pas connu le handicap comme je l'avais connu, parce que moi je traînais dans le centre de mon frère toute la journée, et en fait je suis rentrée à Paris et il n'y avait plus tout ça, et je me disais mais où sont-ils ?
Où ils sont ? Ouais,
et je ne pouvais pas en parler.
Les êtres cachés, comme vous les appelez. Ouais. Ce qui ne change pas entre Israël et la France, en revanche, c'est que tout à la maison est organisé autour d'Anton. C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez aussi la colère que ça peut susciter en vous, par moment. Tout, c'est quoi, par exemple ?
En fait, tout est une occasion de faire des progrès. Donc, si on est à table, par exemple, bien serrer la fourchette, c'est une occasion de muscler la mâchoire. Et quand un enfant bave, par exemple, c'est important.
C'est-à-dire que comme vos parents se substituent à l'école, puisque l'école ne veut pas d'Anton, à ce moment-là, le moindre geste du quotidien devient chargé de sens, il n'y a plus rien d'anodin.
J'intègre l'idée qu'en fait, c'est à nous de faire, et à lui, de faire des efforts pour s'intégrer au monde. C'est pas au monde de faire un pas vers lui. Ouais. Et donc, j'ai appris plus tard qu'il fallait évidemment inverser cette vision, mais... Mais en fait, oui, tout est une occasion de faire des progrès.
Et Anton, à l'époque, en son et en boucle, ça donne ça.
Thank you.
Antoine écoute cette musique très fort, il l'écoute en boucle, ça prend de l'espace, ça prend parfois toute la place. Petite, quels sont vos rapports avec lui? Mais vraiment, quand vous interagissez tous les deux?
Je veux lui apprendre des trucs.
C'est vrai?
Ouais, je veux lui apprendre des trucs, de lui faire faire les choses comme moi. Dès que ça sort de la maison, je suis pas proche de lui, je le rejette.
Vous êtes, vous, assez acrobatique, hein, comme petite fille, pas vraiment scolaire, vous moquez des règles, des cadres, et mois après mois, mon masque se forme, dites-vous, ma peau s'épaissit, je cesse de dire la vérité. Qu'est-ce que ce serait, cette vérité?
Est-ce que t'as fait des devoirs? Oui, non, je les ai pas faits.
Enfin, vous protégez de quoi? Vous laissez pas les adultes aller jusqu'à vous?
Je laisse pas les adultes aller jusqu'à moi. Je pense que, en fait, je pense que j'avais plein de choses à raconter. Par exemple, à l'école, je voulais faire des exposés sur Anton. Je voulais faire des exposés sur mon frère. Je voulais raconter ce qui s'était passé à Jérusalem. Et j'avais pas d'espace de parole pour ça. Une fois, j'étais arrivée avec un journal. Ils avaient par hasard pris une photo de mon frère pour illustrer un article sur ce professeur Feuerstein. Et j'étais arrivée en disant « Mon frère est une célébrité !» j'étais fière, personne ne me laissait être fière de mon frère. Et on m'a ensuite envoyé voir des psys. Tu es là, mais on ne te demande pas vraiment ce que tu penses de cette expérience. D'ailleurs, on m'a prise d'une maternelle en France et on m'a déposée dans une maternelle à Jérusalem. Et ensuite, on m'a reprise d'un CP à Jérusalem et on m'a mise dans un CE1 à Paris. J'ai changé d'école 3 fois et c'est tout. Je suis censée juste... accepter, bah ouais peut-être, mais en fait non, j'avais déjà trop de caractère pour l'accepter sans rien dire. Mais c'est surtout les psys, c'était le fait que je sentais très bien qu'on me mettait dans un espace clos pour aller déverser ce qui est devenu un problème et qui n'aurait probablement peut-être pas été un problème si tôt si j'avais pu vivre ma relation avec mon frère dehors et l'avoir avec moi.
C'est vers l'âge de 10-11 ans que vos rapports avec la nourriture sont devenus compliqués. Comment ça s'est manifesté chez vous?
Je pense que ça s'est manifesté d'abord par la préadolescence et l'envie d'être belle comme mes copines. Moi, j'étais un petit peu plus potelée, un petit peu plus... j'étais pas la préférée des garçons. Et donc, mes troubles alimentaires ont, je pense, commencé comme ça. D'abord par un regard que je portais sur moi-même. Mais finalement, en analysant un peu, en allant un petit peu plus loin, je pense que je me sentais... Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle, en fait, avec la nourriture, avec la boulimie. Moi, c'est la boulimie qui a été pendant des années un problème. Je pouvais ingurgiter et contrôler ce qui rentrait et ce qui sortait de moi. Et donc, faut faire un petit peu... C'est comme une métaphore de la vie, quoi. Je pouvais pas contrôler ce qui m'arrivait dans ma vie. Et je pouvais pas le faire sortir de moi, mais en revanche, je pouvais contrôler ce que je mangeais et le ressortir. Et je pense qu'à la base, ça a commencé par l'envie d'être plus mince. Ça commence par un régime, ça commence par
Oui.
Ouais, enfin, ça commence par ça. Et en fait, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus sournois, quoi. En un comportement qui... Enfin, bref, voilà.
Et en une obsession, en fait. Ouais. C'est d'un régime... tout à coup, ça devient obsessionnel. Ce que vous dites aussi, c'est que ça vous permet d'échapper au dîner de famille et de trouver un peu d'intimité. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans les toilettes, au moment où vous vomissez, c'est le seul moment où vous êtes seul face à vous-même et où personne ne vient vous embêter.
Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, c'est juste que je m'achetais à manger. Je m'achetais des bêtises sur le retour de l'école ou enfin du collège. Ou alors je raflais le frigo en rentrant et comme ça je disais que j'avais plus faim et on m'avait vu manger et donc j'étais pas obligée de rentrer, enfin de dîner avec eux. Et c'était de façon tellement, honnêtement, c'était un peu le bazar quoi à la maison à cause de mille choses. Donc je pense que ma mère devait comprendre que je voulais échapper au repas de famille parce que de toute façon on discutait pas. Mais elle savait pas que c'était parce qu'en fait j'avais une grosse crise compulsive et qu'après j'allais me faire vomir aux toilettes.
Vous grandissez petit à petit, la princesse au petit pois, la petite sirène, tous les contes d'Andersen, pourtant vos préférés, vous les délaissez. Vos héroïnes pourraient être des grandes sœurs, elles s'appellent Laurie, elles chantent à la Star Academy. Et puis Avril Lavigne, c'est vraiment votre meilleure copine. What
you yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one, but you become.
Vous allez changer à nouveau d'établissement à l'adolescence, vous changez de collège. Et ça, ça va changer quoi pour vous ?
Je me retrouve avec des élèves qui ne font pas partie de ma classe sociale. Et je suis confrontée. Ils ont beaucoup plus de moyens que moi. Ouais. Ils ont des gros appartements, beaucoup plus d'argent. Peut-être un. Ouais, des.
Je précise que votre mère documentariste s'est arrêtée de travailler pour s'occuper d'Antoine et que votre père, Jonathan Hirschfeld, est peintre. Donc on imagine une vie plus. Compliqué, pas tous les jours, aisé financièrement.
Non.
Et vos nouvelles copines, si, par contre.
Ouais, moi je partage ma chambre avec mon frère. Je vis dans un appartement qui est petit et que je trouve pas très beau ni désirable. Pas dans le bon quartier, pas du bon côté du pont aérien. Enfin, c'est plein de symboles comme ça, mais pour moi, on était juste comme du mauvais côté de la frontière, quoi. Et je voyais chez les autres, effectivement, ouais, de la liberté, de l'espace, de l'argent, des vacances, des vêtements, toutes ces choses que j'avais pas. Et donc, il y a eu une confrontation, je pense. Assez violente pour moi aux inégalités de richesse, en fait, tout
ça
simplement.
Ça veut dire qu'il y a de la honte, de la colère qui vient, il y a
peut-être un peu un sentiment d'injustice, ouais. Parce que, en fait, j'arrivais pas à voir ce que j'avais à mettre sur la table, parce que côté famille, c'était compliqué, avec mon frère,
j'avais... Vous en étiez où, de vos rapports avec votre frère, à ce moment-là ?
J'avais pas mal honte. En tout cas, ado, j'avais pas encore appris à valoriser mon histoire, à valoriser mon parcours, à valoriser mon frère. Et donc, j'étais mal dans mes pompes. J'avais En fait, l'adolescence, ça vient avec tout ça, quoi. Ça vient avec les hormones, ça vient avec les amitiés, ça vient avec l'amour, ça vient avec une découverte du monde, un affranchissement de la famille, ça vient avec...
Et donc... puis en sous-main, ces troubles alimentaires qui sont toujours là et qui vous pourrissent la vie.
Mais qui me dévorent.
Vous avez des ailes et vous pourriez les déployer, alors là vous iriez haut et vous partiriez, mais à cet âge-là, vous vous sentez surtout coincé. I tried to do handstands for you, I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. À chaque fois, je tombe, chante tel. Et vous avez ce sentiment-là de glisser encore, jusqu'à ce qu'à 14 ans, vous preniez cette décision, les fêtes de famille, c'est terminé. Qu'est-ce qu'elles avaient d'insupportable ?
Bah, c'était à la fois, c'est paradoxal, parce que mes fêtes de famille étaient très dense, il y avait plein de choses à manger. Ma famille maternelle vient d'Europe de l'Est, donc on avait des tables remplies de choux farcis, de caviar d'aubergine, de ceci, de cela. C'était très festif, je buvais de la vodka avec mes oncles. C'était très chouette, mais moi j'avais envie d'être les autres. Vraiment, ouais. J'avais une envie du monde, une curiosité et les fêtes familiales. Nous, par exemple, donc on vient d'ex-URSS, donc là, on fêtait pas Noël. C'était interdit de fêter Noël en Union soviétique, donc c'est le Nouvel An. Mais pour moi, le Nouvel An à 14 ans, c'était déjà un peu le moment où les amis commençaient à les fêter ensemble. Je voulais être avec eux, je voulais pas être avec ma famille. Donc j'en avais marre de ce décalage perpétuel de
l'expression de votre propre singularité pour laquelle vous trouviez pas vraiment d'espace. Alors arrêter avec les fêtes de famille, ça ne suffira pas. Il faudra aller plus loin encore pour respirer l'Atlantique, le traverser, Montréal à 18 ans. Tout juste ça, c'est la liberté. Et vous étudierez les arts, les sciences, la psychologie, l'anthropologie, l'urbanisme, le cinéma. Vous tâtonnez, vous vous cherchez, ça tombe bien. Les gens qui doutent, en général, vous aimez.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps.
Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Vincent Delerme, Jeanne Chéral, Albin de la Simone, Léa Hirschfeld, douter, interroger, changer d'avis, tout plutôt que des certitudes.
Oui, je ne suis pas une femme de certitude.
Zino, c'est votre tout premier récit, récit de votre relation particulière avec votre grand frère Antoine et avec cette question, quel lien on tisse quand l'un des deux est décalé ?
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
C'est le son de vos 18 ans à Montréal, LCD Sound System, Dance Yourself Clean. Comment ça va à Montréal à ce moment-là ?
À Montréal, au début, c'est le bonheur absolu, c'est l'insouciance totale, quoi. C'est arriver dans une nouvelle ville, début des études, Enfin, j'avais déjà eu des petits boulots, mais pas avec des vraies fiches de paye. Mais là, je deviens un peu adulte. Je suis en coloc pour la première fois. Et donc, je pense qu'il y a 6 mois, 8 mois de vraie insouciance. Et je bouffe la vie, quoi. Et c'est formidable. Mais mon arrivée est marquée par un premier boulot qui est animatrice pour adultes porteurs de handicap. Totalement inconsciemment d'ailleurs, parce qu'évidemment, moi je fais pas du tout le lien dans mon esprit.
Lien, ouais.
Je me dis juste, ah mais ça je saurais faire, et c'est important, et il y a des besoins. Donc, plutôt que bosser dans un resto, je vais bosser avec des adultes porteurs de handicap. Et inconsciemment, j'ai compris plus tard que je cherchais à apprendre à faire avec d'autres ce que j'arrivais pas à faire chez moi. Donc, c'est marqué par ça, le début de Montréal. Ouais.
Vous y resterez pas longtemps, dans ce centre. Vous partez. Et puis, les choses commencent à se déliter à nouveau pour vous. Intérieurement, vous glissez. Vous tentez bien de vous accrocher à la paroi, mais ça ne marche pas. Alors, vous décidez d'aller trouver votre père, de le confronter, de lui dire votre mal-être. Et lui, il vous présente Will, lunettes de soleil et tatouages plein les bras. Il anime une sorte de camp, Will, où valide et non valide collaborent à des projets artistiques. C'est l'été, c'est dans le Vermont. Vous l'écoutez et, première impression, honnêtement, pas top.
Bah, au début, sceptique, parce que j'avais eu cette première expérience du coup avec animatrice pour adultes porteurs de handicap et ça m'avait déprimée parce qu'on était, on était en marge. Et ce Will me parle d'un lieu dans le Vermont dans lequel des personnes avec et sans handicap seraient amies à égalité. Et donc, moi, je trouve ça très mystérieux parce que j'avais jamais vu ça. Mon frère et moi n'avions jamais été égaux.
C'est-à-dire que vous étiez dans une position de verticalité comme on l'est dans nos sociétés validistes, c'est-à-dire l'idée que ce qu'on va faire, nous, c'est aider la personne handicapée qui, sans nous, n'est rien, en fait.
Et qui ne peut pas se débrouiller sans nous. Et donc, il y a toujours une relation d'ascendant Et donc, j'y vais hyper sceptique, quoi. J'ai pas du tout envie d'aller prendre un café avec ce type, mais je me dis, bon, allez, de toute façon, je suis toute seule comme une imbécile sur un canapé, j'y vais, quoi. Et je rencontre un homme que j'imaginais vieux, en costume, je m'imaginais un mec chiant, voilà. Désolée, mais genre, quelqu'un qui me ressemblait pas, j'imaginais... Et je découvre un type d'une quarantaine d'années, avec des tatouages partout, des lunettes de soleil, un type que je trouve cool. Et je crois qu'à 19-20 ans, on a besoin de cool, et on a besoin de s'identifier. Et en fait, c'est bête, mais tout d'un coup, le handicap de mon frère et le handicap tout court a pris un autre visage. Je me suis dit, ah mais ça, un mec comme lui peut s'intéresser aux gens comme mon frère, mais ça veut dire que des gens comme moi pourraient... Enfin, que deux mondes pourraient se rencontrer, en fait. En fait, c'est ça que ça veut dire.
Et c'est ce qui se passe là-bas, c'est ce que vous découvrez. Vous y passerez en tout 5 étés, de 2015 à 2019. Et effectivement, là-bas, tout est organisé en binôme, entre valide et non valide. Et tout se fait ensemble, tous ces projets artistiques se fabriquent ensemble. À le voir et à le faire, on a l'impression à vous lire que vous êtes né une deuxième fois.
Il y a clairement une forme de renaissance. Et puis, il y a aussi l'apprentissage que... Le handicap, même lourd, peut être vécu en société, en communauté. Il y a des handicaps très très lourds qui sont présents à Zino, quoi, des physiques et mentaux. Et cette marge à laquelle je m'étais habituée, qui était la seule chose que je connaissais, n'est plus. C'est un nouveau monde possible.
Antoine vous a rejointe la première année. Au début, ça démarre assez mal. Et vous lui en voulez beaucoup.
Mais parce que je veux qu'il soit parfait, évidemment. Ouais. Je veux pas qu'il parte parce qu'il a une hyperacuité auditive. Je veux pas. Anton, quand il entend beaucoup de bruit, c'est agressif pour lui. Il a une grande sensibilité au son, donc il part. Moi, je veux qu'il soit approprié. Or, à Zino, tout le monde est tellement décalé, en fait. Il n'y a pas de manière de fonctionner. Et les autres l'acceptent, c'est moi qui ne l'accepte pas. Et c'est ça que je réalise aussi là-bas. Et je suis mal à l'aise parce que c'est moi qui finalement... Le stigmatise.
La rencontre avec Anton va être possible là-bas, finalement.
Ouais. La relation frère-sœur peut naître parce que déjà, on peut passer du temps ensemble dans le même endroit. On peut avoir des amis en commun ou pas en commun. Il peut avoir une vie sans moi, je peux avoir une vie sans lui, mais on peut se croiser le matin, le midi, le soir. Et je peux découvrir, en fait, un homme que je connais pas. Il peut me il me surprend, en fait. Je me rends compte que qu'il est hyper marrant, qu'il a une âme de leader, que les gens l'adorent, que les gens ont envie de faire des choses avec lui. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'il pouvait se débrouiller sans moi. Et que même peut-être parfois, j'étais celle qui tapait à côté. Donc j'avais l'opportunité d'apprendre avec les autres. J'avais toujours eu le sentiment que c'était à moi d'apprendre aux autres comment être avec Anton, d'apprendre à Anton comment être avec les autres. Et là, tout d'un coup, je pouvais déconstruire toute mon approche du monde. Et c'est en ça que c'est une renaissance. Je pouvais vraiment vraiment remettre à plat.
Vous resituez vous dans le monde, le resituez lui, et c'est comme ça que, été après été, vous le tisser ce lien tous les deux. Vous allez alterner pendant 5 ans, Zino l'été, des voyages loin et seul, 6 mois en Amérique latine, et puis la France, des petits boulots, une école de théâtre, vous accrochez. Mais en secret, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, et vous continuez à chercher qui vous êtes en dehors d'Anton ?
Qui je suis en dehors d'Anton ? Je ne sais pas qui je suis sans mon frère. Et en même temps, je sais que ma famille ne peut pas faire tout ce que je suis. Et en même temps, je n'ai aucune idée. Et en même temps, je me suis construit contre eux. C'est ça qui est très paradoxal.
C'est-à-dire que vous, ça doit être un peu tempête sous votre crâne à ce moment-là, parce que vous dites, c'est ni sans lui, ni avec lui, en fait.
Ouais.
Les deux sont impossibles.
Avec lui, et je ne sais pas vivre sans lui.
En quoi votre relation avec votre frère a pu impacter vos histoires d'amour ?
Mon frère, c'est un crash test. Clairement. Franchement,
on pourrait dire un radar à connard aussi.
C'est totalement un radar à connard, on peut le dire aussi. Mais clairement, je pense que si... Enfin, j'ai pas d'amis qui tolèrent pas mon frère et j'ai pas d'amours qui n'ont pas toléré mon frère. J'ai eu un premier amoureux c'était à Montréal, c'était mon premier amour. Qui s'appelle
Léni.
Léni. Coucou Léni. Lui, par exemple, il donnait des cours de ski à des enfants ados aveugles. Et il n'avait rien à voir avec le handicap, Léni, à la base. Enfin, il ne connaissait pas du tout cet environnement-là. Et moi, je trouvais que c'était un mec, du coup, curieux, enfin, beaucoup plus curieux que,
oui,
que
mais
les
ça
autres.
Ça raconte aussi qu'il épousait votre vision du monde, celle que vous aviez apprise et comprise à Zino. Donc, ça n'est pas rien. C'est au contraire, ça fait tout. Alors, quand vous rencontrez Mickaël, vous lui dites tout de suite, armé de ce radar à connard, hein, vous lui dites tout de suite, votre frère handicapé, les enfants dans 5 ans, voilà le package, tu dis oui ou non avant que je tombe amoureuse, je ne veux plus perdre de temps, je veux bâtir.
Le micro, mon rap vient de mes entrailles. Mon rap porte une balafre. Mon rap vient de mes entrailles. Mon rap a une stature, une carrure, un charisme, une voix, une pensée. Et les Français, pas qu'un riz. Mon rap vient des cabrets, de mes lunes oreilles. Hollywood, négro, pas Hollywood. Mon rap a quelque chose de trop vrai qui transcende les reflets, les inspire au progrès. Mon rap, c'est du rap de pauvre. Rap pour sur vos bandes et vos lampes. Y'a que la foi qui sauve. Le jour dernier, mon rap a une croyance. Je rappe, je rappe les yeux fermés. Mais mon rap a une clairvoyance. Mon
on
rap
est où là défaut, on est dans la voiture, la premier week-end avec Mickaël et Anton, première fois qu'ils se rencontrent.
Ouais.
Mickaël et Anton sont nés le même jour. Fascinant. Un hasard parmi les beaux hasards de la vie. Donc oui, effectivement, j'avais mis un peu cette espèce de... Pas ultimatum, mais à Mickaël, voilà, je lui avais dit concrètement, j'ai un frère porteur de handicap, ça va être ma responsabilité plus tard. En tout cas, j'ai envie que ça le soit aussi.
C'était il y a 5 ans et aujourd'hui, vous allez devenir parent, Mickaël et vous. Timing tenu, bravo Léa. Entre-temps, il y a eu le confinement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Ça a changé franchement tout. Déjà le fait que ça fasse un mois qu'on sorte ensemble et qu'il soit né le même jour et qu'il me propose d'emmener mon frère en week-end, tous les trois, c'était, ça m'était jamais arrivé quoi. C'était naturellement quelque chose qui faisait partie de notre vie ensemble aussi quoi. Ouais. Donc on n'est pas un trouble, hein, très loin de là. Mon frère n'est pas au cœur de notre relation, mais c'était une manière de me montrer que oui, tu vois, il comprenait et qu'Anton ferait partie de nos vies peut-être. Surtout que ce week-end, ils l'ont passé bras dessous et moi j'étais derrière en train de prendre des photos d'eux totalement émerveillée, à essuyer mes larmes parfois parce que je trouvais ça totalement incroyable. En fait non, avec Mickaël, c'est allé assez vite, on a vite emménagé ensemble, on a vite fait des week-ends avec mon frère, on a vite... Il m'a jamais posé de questions, par exemple, sur Anton.
Et petit à petit, les choses s'apaisent et le puzzle, enfin on va dire que les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Vous retrouvez votre place auprès de vos parents aussi pendant le confinement. Et là, les conflits sont loin derrière. Cette fois-ci, ça se passe mieux. Anton change. En quoi ?
Donc ça, c'était avant de rencontrer Mickaël. Il y a ce premier confinement, effectivement, où je suis seule encore et je me confine chez mes parents à cause des troubles alimentaires. C'est pas parce que j'avais très envie d'être en famille, honnêtement, et c'était clair entre nous, c'était parce que je pouvais pas être seule.
Quel est le lien avec les troubles alimentaires,
pardon, je pouvais pas être seule chez moi pendant 2 semaines. Je pense que j'avais trop peur de refaire des crises. Crise de boulimie. Hein. Et donc, je me sentais pas capable d'être seule face à moi-même. Mm-hmm. Avec le confinement, on revient quotidien, en fait, qu'on n'avait pas vécu depuis ma grande adolescence. Je suis partie à 17 ans de la maison. Et avec des discussions qui sont passées par là, avec pour moi des voyages, des boulots, Zino. Et en fait, on se rend compte qu'un quotidien apaisé ensemble est possible. Et aucun de nous ne savait ça. On n'en avait pas fait l'expérience. Et donc, il y a mon père, ma mère, mon frère et moi dans l'appartement dans lequel j'ai grandi, dans lequel il y a eu quelques travaux, mais il n'y a toujours pas de chambre pour moi. Donc, je suis sur le canapé. Et puis, bon, c'est le confinement, donc on voit tout le monde faire du pain sur Instagram, tout le monde cuisiner, tout le monde faire des trucs, donc on fait un peu pareil. Je fais des abdos avec Anton, je fais du pain avec Anton, on cuisine ensemble pendant les... On avait une heure autorisée, ça paraît dingue maintenant, ça paraît tellement loin, mais on avait une heure par jour pour sortir. Nous, on sortait et on s'entraînait à traverser la rue, on chantait à tue-tête, moi qui suis... qui ne pourrait jamais chanter à tue-tête dans la rue s'il y avait du monde autour, mais là, je fais les trucs qui l'éclatent. Et donc, on peut vivre une relation simple.
Et c'est fou, parce qu'au moment où elle se noue, cette relation, c'est aussi le moment où vous allez éclore tous les deux. Vos parents ont toujours cru en Anton, ils l'ont toujours poussé à développer ses talents artistiques, et il en a beaucoup. Il est peintre et il vit de sa peinture, ce qui est quand même complètement fou. Et vous, pour la première fois, à peu près à cette période-là, hein, confinement, rencontre avec Michael, quotidien avec Anton, vous allez publier un texte, vous allez oser publier un texte que vous avez écrit, c'est sur Facebook, et vous vouliez dire quoi, au fond ?
Je voulais parler de ce retour à la maison, je voulais parler de ce que ça avait été pour moi de grandir avec un frère porteur de handicap, et je voulais surtout appeler d'autres frères et sœurs à témoigner. Donc je me suis dit, en fait, si je témoigne, je peux demander aux gens de me raconter leur histoire. C'est donnant-donnant, en fait. Ouais. On crée des liens, et si je donne, bah, peut-être que tu voudras me donner en retour.
C'est-à-dire que ça n'est plus un tabou, c'est-à-dire que ça n'est plus un secret, c'est-à-dire qu'on n'est plus figé, cryogénisé dans une peur, panique du handicap, mais on en parle, on échange, on discute. Votre texte va circuler, pas qu'un peu, hein, repris par des journaux en France et au Canada. Vous échangez, vous, alors avec des centaines d'inconnus, c'est comme un couvercle que l'on soulève, c'est comme de l'air qui revient et qu'on respire à plein poumon. Du coup, vous enchaînez, story postée sur Instagram, cherche ingénieur du son pour podcast à réaliser. Quelques temps plus tard, Décalé était né.
Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. Décalé. Avec Lily, on s'est rencontrés grâce au bouche à oreille. Un jour, elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant qu'elle avait entendu parler de mon projet via un ami et qu'elle était intriguée et intéressée. La rencontre a porté ses fruits, puisqu'on est là aujourd'hui pour continuer la discussion autour d'un micro. Bonjour Lily.
Bonjour.
En quoi, Lily, en quoi toutes ces personnes que vous avez rencontrées pour Décalé, qui en est à sa 3e saison, en quoi ce podcast vous a-t-il fait bouger ? En quoi est-ce qu'il vous a nourri ?
Mais déjà, je me suis rendu compte que parler pouvait être vraiment très très sérieux et qu'il y avait peut-être pas. Moi, j'avais eu l'habitude peut-être un peu de crier. J'avais eu l'habitude d'avoir des prises de parole qui n'étaient pas forcément très contrôlées et qui étaient un peu toujours débordantes d'émotions. Et là, je pouvais discuter profondément.
En marge. Sur France Inter.
Une personne sur 10, d'après une étude du Crédoc de 2023, se sent éprouvée par l'accompagnement d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Un tiers des jeunes interrogés estiment être en moins bonne santé mentale ou physique que ceux de leur âge et un quart est en décrochage scolaire. Tous sont ceux que l'on appelle des aidants. Quel rapport est-ce que vous avez avec ce mot-là, Léa Hirschfeld ?
Le problème, pour moi, avec le mot aidant, c'est que il y a à la fois les avantages d'avoir un statut aidant qui pourrait permettre du coup vraiment d'identifier des besoins spécifiques à de l'aidance. Il y a des besoins physiques, ouais. Financiers, psychologique.
Que les aidants soient à leur tour aidés et soutenus.
Aidés pour aider. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit une espèce de destinée, en fait, pour
les
familles.
Et puis une façon de se décharger aussi.
Une façon de décharger la société. Ouais. Mais il ne faut pas que ça devienne un rôle, que les proches, que les familles deviennent naturellement ceux à qui on octroie ce rôle dans la société et qu'on les aide trop à le faire, parce que sinon on dédouane le reste.
Et vous écrivez, Anton doit-il être un aidé dans ce monde? Faut-il rappeler toujours que le reste de la planète a un ascendant sur lui? N'a-t-il pas droit à des parents et à une sœur tout court? Laissez-moi Anton tout court, c'est lui qui manque à ma vie. Immensità, Laszlo Della Simone, c'est cette chanson que vous pourriez entendre pour l'éternité.
Oui.
Elle vous dit quoi, cette chanson?
Je l'ai écoutée quand j'ai rencontré Michael. Je l'ai écoutée pendant très longtemps. Et elle me fait rêver. Elle me transporte. Je m'allonge au sol et je l'écoute. Et parfois, je pleure. J'adore cette chanson.
Et sur votre chemin, vous auriez quoi comme objet?
Sur mon chemin, j'ai mon premier Zoom H5.
Il est là.
On est dans le thème de la radio. C'est l'objet qui m'a permis de rendre mon histoire utile au monde. Enfin, c'est la première fois que j'ai considéré que les récits personnels, ou en tout cas le mien, ça a été une prise de confiance en moi, un affranchissement, une affirmation. Je suis passée de serveuse à créatrice de podcast dans mon canapé et dans ma chambre à quelqu'un qui aujourd'hui en vit et a écrit un livre. Donc c'est le début de tout ça.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Un livre, et quel livre, Léa Hirschfeld? Zino, édité au Seuil, collection Villa Albertine. Je vous renvoie également tout de suite sur les 5 saisons de Décalé, sachant que la 5e était réalisée uniquement avec des personnes qui sont liées à Zino. Quand je dis que tout se recoupe et que les boucles se bouclent, à la toute fin du livre, Léa, vous remerciez vos parents, vous écrivez, vous avez une très jolie formule: vous êtes mes parents, vous êtes tellement plus que ça. Si vous ne m'aviez pas faite, j'aurais voulu être votre amie. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.